RFI, 20h30 à Paris, 18h30 en temps universel et à Conakry. L'heure de vous retrouver, Zéphirin Quadio, pour Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous.
Au programme des prochaines minutes.
L'Afrique également frappée par la forte hausse des droits de douane annoncée hier par les États-Unis. La plupart des produits exportés vers le marché américain subiront des taxes supplémentaires de 10 à 50%. Et c'est aussi dans ce contexte que le nouveau conseiller Afrique du président Donald Trump entame une tournée sur le continent. Première étape, la République démocratique du Congo. Il a rencontré ce jeudi le président Félix Tshisekedi. Et puis un nouveau signe du rapprochement entre la Russie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'Alliance des États-Unis, des États du Sahel en visite ce jeudi à Moscou. Sachez également qu'à l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril au Gabon, RFI donne la parole à l'ensemble des 8 candidats en lice. Ce soir, nous entendrons Axel Stoffen Ibinga Ibinga. L'Afrique n'est donc pas épargnée par la forte hausse des droits de douane annoncée par Donald Trump mardi. Les produits africains exportés vers les États-Unis vont se voir imposer des taxes allant de 10 à 50% selon les pays à partir du 9 avril. Des taxes proportionnelles au déficit commercial des États-Unis avec leurs partenaires commerciaux, mais aussi proportionnelles aux barrières douanières appliquées aux produits américains. Alors quels sont les pays qui pourraient en souffrir le plus? Élément de réponse avec Claire Fage.
Le Lesotho est le plus durement taxé à hauteur de 50%, sont visées ses exportations de textiles, de même que Madagascar et Maurice, respectivement taxés à 47 et 40%. Les diamants du Botswana devraient subir 37% de droits de douane, les hydrocarbures d'Angola, de Libye et d'Algérie plus de 30%, le cacao de Côte d'Ivoire 21%. Mais c'est l'Afrique du Sud qui risque de payer le plus lourd tribut à ces mesures américaines. Elle est frappée de 30% de droits de douane sur un volume et surtout une valeur de produits incomparable sur le continent, avec près de 15 milliards de dollars d'exportation, dont beaucoup de véhicules et de pièces automobiles. L'Afrique du Sud représente plus d'un tiers des exportations africaines vers les États-Unis. Pretoria souligne l'urgence de négocier un accord de libre-échange avec Washington en lieu et place de l'AGOA, qui accordait zéro droit de douane à 1800 produits africains et qui semble désormais obsolète. Les métaux de base et les minerais stratégiques sont exclus de cette salve de taxes américaines, ce qui devrait épargner le cuivre et le cobalt de République démocratique du Congo.
Et cette guerre commerciale lancée par Donald Trump frappe très durement Madagascar avec des droits de douane fixés à 47% sur les produits en provenance de la Grande Île, à l'exception de certains minerais. C'est le deuxième pays du continent le plus taxé par les Américains après le Lesotho. Cette annonce est un véritable coup de tonnerre pour plusieurs secteurs d'activité à Madagascar, secteurs d'activité qui vivent en grande partie des exportations vers les États-Unis. On fait le point avec Guillaume Fabry.
Avec 70% de ses exportations destinées aux États-Unis, le secteur de la vanille malgache est l'un des plus menacés par les nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump à Madagascar. Les professionnels de la filière redoutent que la vanille produite en Ouganda leur fasse de plus en plus concurrence alors que ce pays n'est taxé qu'à hauteur de 10% par les Américains. Autre secteur en danger sur la grande île, le textile. Près de 40% des exportations de vêtements malgaches ont pris la direction des États-Unis en 2023. La décision américaine est une catastrophe pour l'un des responsables de cette industrie. Qui estime qu'au moins 60 000 emplois sont en péril. Une inconnue demeure cependant sur la date d'entrée en application des nouveaux tarifs douaniers américains. Donald Trump a annoncé le 9 avril, mais bon nombre de produits malgaches exportés aux États-Unis sont exemptés de droits de douane dans le cadre de l'AGOA, un accord de libre-échange en vigueur jusqu'au mois de septembre. En milieu de journée, la ministre des Affaires étrangères malgache a promis d'activer tous les leviers diplomatiques et commerciaux pour garantir un accès équitable des produits malgaches au marché américain. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Et pendant ce temps, le nouveau conseiller Afrique de Donald Trump poursuit sa tournée sur le continent. Il doit se rendre à Kigali au Rwanda, mais aussi au Kenya et en Ouganda. Pour sa première étape, Massad Boulos, déjà conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et du Moyen-Orient, était en République démocratique du Congo. Il y a rencontré le président Félix Tshisekedi, où ils ont évoqué les questions sécuritaires, mais aussi leur collaboration économique. Massad Boulos à la sortie de son entretien avec le président congolais.
J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais.
Massad Boulos au micro de Paulina Zidi. Et puis, dans l'Est du pays, les rebelles de l'AFC M23 ne sont plus visibles depuis hier soir à Walikale-Centre, le chef-lieu du territoire du même nom, dans le Nord Kivu, Walikale-Centre, qu'ils occupaient depuis deux semaines. Selon des témoignages recueillis par RFI, qui assure que les premiers éléments des FARDC et des Wazalendo sont arrivés sur place. Le point avec Esdras Nickman.
Selon un témoin sur place, le retrait des combattants de l'AFC M23 aurait débuté hier matin, sans qu'ils sachent exactement pourquoi ils étaient en train de se retirer de cette localité. Les habitants de Walikale Centre ont finalement constaté qu'aucun élément rebelle n'était plus visible aux principaux points qu'ils occupaient dans la cité dès hier soir. C'est à ce moment-là que les premiers soldats congolais accompagnés de Wazalendo sont arrivés. Ils ont été rejoints par d'autres éléments des FARDC ce matin. Ils ne sont plus là, nous a confirmé le porte-parole des FARDC, le général Germain Ekenge. Suite au bombardement de l'aérodrome de Walikale il y a une semaine, l'encerclement par les FARDC et le harcèlement des Wazalendo, ils ont décroché et sont en route vers le Massissi, a-t-il expliqué, en assurant que cette cité charnière au milieu de l'AFC M23 appuyée par le Rwanda depuis le 19 mars dernier est désormais sous contrôle de l'armée congolaise. Mais depuis trois jours, des sources au sein du mouvement rebelle évoquaient un retrait imminent de Walikale Centre, présenté officiellement comme un geste de bonne volonté dans le cadre des négociations directes avec Kinshasa qui pourraient avoir lieu à Doha où les deux parties étaient déjà représentées la semaine dernière.
Ah, ici signé Esdras Nickman. L'actualité également, les ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'Alliance des États du Sahel ce jeudi à Moscou. C'est la première fois qu'ils se retrouvent ensemble dans la capitale russe. Moscou se félicite d'une nouvelle étape dans la structuration de leurs relations. Correspondance à Moscou, Anissa El-Jabri.
Première à reconnaître l'AES, première à la recevoir. La Russie avait ce jeudi consacré du temps et mis en valeur son échange diplomatique avec le Mali, le Niger et le Burkina. Le chef de la diplomatie du Niger, Bakary Yahou Sangaré, pour sa part, aller jusqu'à saluer, je cite, un événement historique qui marque un tournant, assurant, je cite encore, qu'avoir la Russie à leur côté pour lutter contre le djihadisme compte beaucoup pour les trois pays sahéliens. Sur la photo officielle de la rencontre sur le site du ministère des Affaires étrangères russe figure bien sûr au centre le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov et à sa gauche Younousbek Yevkourov, vice-ministre de la Défense, très discret mais au voyage régulier en Afrique. La marque sans surprise que ce partenariat se joue en effet essentiellement sur l'échange bien connu défense et appui militaire contre ressources naturelles. Notre coopération dans le domaine militaire s'intensifie, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, notamment à l'adresse de son homologue malien Abdoulaye Diop, qui a aussi annoncé une visite officielle du chef de l'État du Mali, Assimi Goïta, en juin dans la capitale russe. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
C'est leur première apparition depuis leur arrestation la semaine dernière à Ouagadougou. Les journalistes burkinabés Gezouma Sanogo, Boukari Woba et Luc Pakbelgem sont tous les trois visibles dans une vidéo qui les montre en tenue militaire. Les trois hommes de médias avaient été emmenés sans motif ni mandat par des hommes en civil après des déclarations sur les entraves à la liberté de la presse depuis l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré. La vidéo confirme en tout cas que les trois journalistes ont bel et bien été réquisitionnés pour combattre au front, s'il y en s'allait.
Dans la vidéo, on voit Gezouma Sanogo et Boukari Woba, respectivement président et vice-président de l'Association des journalistes du Burkina Faso, et au milieu se tient le reporter de la chaîne privée BF1, Luc Pakbelgem, en uniforme, dans le désert, sur ce qui s'apparente à un centre de recrutement ou d'entraînement militaire. D'après l'attitude des personnes en arrière-plan devant un micro tendu, Luc Pakbelgem affirme que le terrain, je cite, « c'est une autre réalité, on a vu le butin que l'armée a saisi, qui donne tout ça aux terroristes ?» journalistes, puis le micro passe à Bukari Woba. Nous sommes arrivés ici dans des circonstances particulières, mais nous apprécions car on peut mieux rendre compte, déclare notre confrère, pourtant lui-même réputé être l'un des meilleurs reporters de sa génération. Ce genre de vidéo n'a rien d'inédit. L'an dernier, l'ancien ministre Ablassé Ouédraogo, âgé de 70 ans, était aussi réapparu arme à la main dans une vidéo. Et il y a 2 ans, c'était Bukari Ouédraogo, président du mouvement L'Appel de Kaya, et surtout connu pour être malvoyant. À l'époque, le capitaine Ibé avait reconnu avoir personnellement donné l'ordre de le réquisitionner, en déclarant que ceux qui critiquent doivent se contenter de manger, dormir et laisser les autres travailler.
Sidi Yansan, et puis l'armée malienne précise sa version au sujet du drone abattu dans la nuit de lundi à mardi à la frontière algérienne. Elle assure que son drone n'est pas entré sur le territoire algérien. Alger avait pourtant revendiqué avoir abattu l'appareil pour préserver ses frontières nationales. Explication, David Bachet.
Ce drone survolait l'espace aérien malien. Il est tombé dans le territoire malien. C'est le chef d'état-major général des armées du Mali en personne qui l'affirme, apportant un démenti catégorique au ministère algérien de la Défense. Bamako n'avait jusque-là pas réagi à la revendication de l'Algérie qui assume la destruction de ce drone au motif qu'il avait, selon Alger, pénétré de 2 km à l'intérieur du territoire algérien. Mais le général Oumar Diarra assure que ce drone opérait bien dans les limites du territoire national. Les débris de l'engin ont été retrouvés du côté malien de la frontière, près de la ville de Tinzawaten, par les rebelles indépendantistes du FLA, dont c'est une zone refuge. C'est d'ailleurs le FLA qui avait révélé la chute de ce drone en publiant des images des débris sans expliquer clairement l'origine du crash. Le démenti malien aux accusations de l'Algérie ressemble aux prémices d'une nouvelle crise diplomatique. Dans sa déclaration, le chef des armées du Mali précise toutefois attendre les conclusions officielles de l'enquête en cours. Toute personne ou organisation qui tenterait de s'opposer à la sécurité du Mali sera combattue, affirme également le général Diarra, sans jamais citer l'Algérie.
Explication signée David Bachet. Puis toujours au Mali, l'opposant politique Seydina Touré, condamné ce jeudi à 1 an de prison ferme. Membre du parti Alternative pour le Mali, il avait été arrêté le 2 janvier dernier et était poursuivi pour incitation aux troubles à l'ordre public notamment. Il avait sur les réseaux sociaux appelé, je cite, « combattre le régime anarchique d'Assimi Goïta ». Seydina Touré écope pour cela d'un an de prison ferme. Il devra également verser 650 000 francs CFA d'amende et de dommages et intérêts.
RFI à 19h42, à Niamey 18h42, en temps universel. À suivre dans la seconde partie d'Afrique Soir, le rendez-vous avec DJ Facemaker, notre reportage consacré à la perpétuation de la mémoire des soldats africains qui ont combattu pour la France, les commémorations de la 5e année de la disparition du Sénégalais Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, qui aura marqué l'histoire du football. Et puis la profession de foi de l'un des 8 candidats à l'élection présidentielle du 12 avril, c'est au Gabon. Mais d'abord, un petit rappel de l'actualité dans le reste du monde. Avec à la une ce soir les conséquences immédiates des déclarations de Donald Trump sur les droits de douane, c'était hier, et ça se poursuit. Les marchés financiers ont violemment réagi, les bourses européennes terminent en nette baisse, plombées par les inquiétudes liées à la guerre commerciale. À Wall Street, le Nasdaq a enregistré une chute de 5%. Le Canada, de son côté, contre-attaque. Le Premier ministre annonce l'instauration de droits de douane de 25% sur certaines importations automobiles en provenance des États-Unis. En France, Emmanuel Macron réagit lui aussi avec fermeté. Le président qui dénonce une décision brutale et infondée de la part de Donald Trump. Cet après-midi, il recevait à l'Élysée les représentants des principales filières industrielles françaises. Et puis en Syrie, l'aviation israélienne a mené en fin de journée hier 2 frappes ciblées sur des positions militaires situées en périphérie de Damas. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les frappes ont visé des installations dans les secteurs d'Al-Kishwa et d'Al-Mukailiba. Des explosions ont été entendues jusque dans la capitale.
Et retour à l'actualité africaine de ce jeudi et à l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril prochain au Gabon. Vous le savez, RFI donne la parole à l'ensemble des 8 candidats en lice ce soir. Axel Stoffen Ibinga Ibinga, déjà candidat au scrutin annulé de 2023, cet entrepreneur de 44 ans estime que le pays n'a pas progressé depuis le coup d'État. Il propose donc de libéraliser et moraliser le Gabon pour créer un véritable esprit d'entreprise. Il explique à François Mazé pourquoi il se lance à nouveau dans la course.
Le Gabon n'est pas en meilleure santé, sinon je ne me serais pas présenté. Ça, je peux vous le dire. Si les choses avaient été faites comme cela se doit, je n'aurais pas été candidat. Aujourd'hui encore, après la transition, les choses n'ont pas évolué. La direction n'est pas celle que j'avais espérée. Elle n'est pas celle non plus que je porte dans mon programme.
Vous vous demandez une véritable rupture avec les pratiques du passé. Vous avez le sentiment que le coup d'État n'a pas amené cette rupture?
C'est juste que le coup d'État n'a pas pris le soin de traiter la question de la mentalité. Mais pour travailler une nation, un pays, c'est d'abord les hommes. Ces hommes doivent être transformés. On a fait un procès à nos institutions. Malheureusement, elles ne parlent pas, les institutions. Ce sont les hommes qui sont derrière. Et les hommes qui ont été aux manettes n'ont pas été inquiétés.
Vous êtes entrepreneur dans un pays où la culture entrepreneuriale n'est pas très forte. Comment développer les initiatives privées au Gabon?
C'est ma vision. Nous sortons aujourd'hui de 35 ans de gouvernance politique. Il n'y a rien qui se fait dans l'intérêt des populations. Tout est fait pour le politique. Nous allons parler dans une gouvernance économique, avec un État stratège qui met en avant l'économie et non le politique. C'est là la différence. L'État va demeurer à sa place en tant qu'État régalien. L'État n'est pas vocation à aller construire les bâtiments ici et là. L'État n'est pas vocation à s'immiscer dans l'économie. Et dans ces trois principes d'État, il y a l'État régalien, l'État providence et l'État stratège, qui va être cet État-là qui va amener l'éclosion d'une nouvelle classe d'entrepreneurs, d'une part, mais aussi de dirigeants de grandes entreprises.
La scène politique aussi, elle a besoin d'être libéralisée au Gabon?
Elle a besoin d'être moralisée d'abord. Nous avons un pays aujourd'hui où tout le monde veut faire de la politique. Plus personne ne veut travailler. Tout à l'heure, vous parlez du mouvement des bâtisseurs. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. La société civile, elle a intégré le mouvement. Tous les partis politiques ont intégré le mouvement. Il n'y a plus personne. On ne sait plus qui est qui. L'objectivité que devraient avoir certains mouvements, certaines ONG, associations, malheureusement, on ne l'a plus. Même les mouvements syndicaux, aujourd'hui, ça pose problème. Moi, aujourd'hui, mon inquiétude est beaucoup plus sur les jeunes qui ont fait croire que c'est la politique le chemin. L'ascension sociale vient par la politique. Ce qui est faux, ça vient par le travail. La politique, c'est la gestion de la cité. Ça veut dire que vous avez un mandat électoral, on vous a élu au local, aux législatives, et vous pouvez défendre les intérêts des populations. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Un jeune de 22 ans qui ne fait rien, il me dit qu'il a un mouvement politique. Un jeune de 30 ans qui n'a pas d'emploi, il me dit qu'il veut faire la politique, il veut être un élu. Il n'a jamais travaillé, il n'a pas d'expérience. Que va-t-il apporter? Voilà aujourd'hui où nous en sommes.
Voilà, Axel Stoffen Ibinga, interrogé par François Mazet. Sachez que l'intégralité des interviews des candidats avec leurs motivations et leurs programmes à retrouver dans un article spécifique sur notre site internet www.rfi.fr. Et on ouvre à présent notre page sport avec, pour commencer, du cyclisme. Binyam Girmay va s'attaquer pour la première fois au redoutable pavé du Paris-Roubaix en France, quelques jours après le champion du monde Tadej Pogacar. C'est au tour de l'Érythréen d'annoncer sa participation à la mythique classique via un communiqué de son équipe Intermarché Wanty. Binyam Girmay sera donc au départ de l'Enfer du Nord le 13 avril prochain. Triple vainqueur d'étape et maillot vert du dernier Tour de France, l'Érythréen va découvrir à 25 ans une course dont il dit rêver depuis toujours et sur laquelle il espère performer et progresser. Le 31 mars 2020 disparaissait des suites du Covid-19. Le Sénégalais Pape Diouf, de journaliste à dirigeant, en passant par le costume d'agent de joueur, l'ancien président de l'Olympique de Marseille aura marqué l'histoire du football. Une œuvre encore célébrée ce jeudi à Dakar par les acteurs du sport sénégalais pour commémorer la cinquième année de sa disparition. Correspondance à Dakar, Wani Johnson Sambou.
J'ai refusé de pleurer, mais je n'ai pas pu. Parce que c'est plus fort que moi.
L'émotion était grande, l'ambiance très lourde. 5 ans après sa mort, le souvenir de Pape Diouf reste encore vivace dans les mémoires. Les Sénégalais pleurent encore l'ancien président de l'Olympique de Marseille, emporté par le Covid-19 à l'âge de 68 ans.
C'est quelqu'un qui a toujours façonné sa vie dans le monde des détails pour aider les gens. Moi, il m'a beaucoup aidé. Pape, c'est une bibliothèque, il n'est pas mort.
Pape, c'est très difficile de le résumer en quelques mots. C'est un homme d'une finesse et d'une intelligence incroyable. Un monument nous a quittés, mais sa mémoire demeure.
L'hommage à Pape Diouf a réuni plusieurs personnalités sportives, dont l'actuel sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, ou encore Boubacar Sarr Lokhote, ancien joueur de l'OM. Tous étaient là par devoir de mémoire pour que vive à jamais l'œuvre de l'ancien dirigeant sénégalais. Mamadou Koumé, journaliste et ancien compagnon de Pape Diouf, initiateur de cet hommage.
C'est quelqu'un qui est parti de rien, de coursier, et qui est devenu président de l'OM. Voilà une carrière qui doit inspirer les jeunes Africains. Pape, ce n'était pas le Sénégalais, ce n'était pas le Français. Pape, c'était un citoyen du monde. Mais les Africains étaient très fiers de lui.
Wahani Johnson Sambou, Dakar, RFI.
RFI à Dakar, il est actuellement 18h et bientôt 50 minutes. Comment perpétuer la mémoire des soldats africains qui ont combattu pour la France? La question agite la communauté ivoiro-guinéenne de Danané, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les familles craignent d'être oubliées à la mort du dernier vétéran de l'armée coloniale. Benoît Almeras a retrouvé la trace de cet ancien combattant dans le quartier d'Oufouetteville de Danané. Le caporal Lama Niankoy est l'un des derniers témoins des tensions de l'époque entre la France du général de Gaulle, la Côte d'Ivoire d'Oufouette-Boigny et la Guinée de Sékou Touré.
Dans l'armée, je m'appelle caporal Niankoy Lama.
Appuyé sur sa canne devant sa maison modeste, le caporal Lama Niankoy a l'esprit toujours vif. À 94 ans, entouré de ses proches, le patriarche raconte son parcours militaire. Engagé à 19 ans à Nzérékoré, le soldat originaire de Guinée sert à Madagascar ou encore en Algérie.
Où j'ai servi, Constantine. Au rang et où j'ai servi au mois de combat.
Mais en 1958, le caporal doit choisir son camp. La Guinée de Sékou Touré prend son indépendance de la France avec fracas.
Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage.
Lama Niankoy sert encore 7 ans sous les drapeaux bleu, blanc, rouge, comme l'explique Félix, son fils.
La Guinée a demandé d'avoir sa libération. L'armée française a quitté. Maintenant, lui, il a demandé d'aller terminer ses 15 ans de service avec les Français pour qu'il puisse avoir sa pension.
Un choix et des conséquences. À sa démobilisation en 1965, les Guinéens de l'armée française sont vus comme des traîtres et des parias dans leur pays natal. Parmi eux, 37 vétérans échouent à Danané, en Côte d'Ivoire, autre pays hostile aux yeux du régime de Sékou Touré, un nom que Lama Niankoy ne veut plus entendre.
Lève le nom de Sékou Touré. Faut pas parler de gros mots avec moi. Ça, c'est un politique. Je ne connais pas politique. Quand Sékou Touré vivait, c'était très dur pour nous. Je ne veux même pas attendre son nom.
Francine Damé préside l'association des enfants des anciens combattants de Danané. Son père en était le chef.
Au moment où Sékou Touré était au pouvoir, je voyais mon papa ne pouvait pas rentrer.
Et est-ce que vous avez compris après coup pourquoi c'était comme ça?
Ceux qui ont suivi les Français ne pouvaient pas rentrer. Parce que lui, il a trouvé peut-être que les Français étaient ses ennemis.
Et ce passé ne passe toujours pas pour Francine, surtout quand elle se rend en Guinée.
Même si on va aujourd'hui, nous sommes les anti-guinéens. Même si on dit nous sommes guinéens, ils ne veulent pas accepter ça. On nous appelle, on dit nous sommes des Ivoiriens. Eux-mêmes, ils savent que nous sommes guinéens, mais ils disent que oui, nous, au moment où eux, ils souffraient là, nous, on était où? Donc, c'est comme ça, on nous traite toujours. Donc, ce n'est pas facile.
Ses descendants redoutent d'être oubliés par la France, le pays que Lama Niankoy avait choisi de servir. Benoît Almeras, Danané, RFI.
Il est 18h52 à Abidjan.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
Et comme tous les jeudis, l'ambianceur d'Afrique Soir est dans ce studio pour sa sélection certifiée Afroclub. Bonsoir Hervé Mondina, alias DJ Facemaker.
Bonsoir mon copilote, Tonton Zéphir. Hein.
Ce soir en tout cas, vous commencez fort avec notamment Fally Ipupa.
Oui, l'icône de la musique congolaise a dévoilé Mayanga, son nouveau morceau qui signifie « être amoureux » en Lingala. C'est une chanson entièrement dédiée à la femme africaine et le clip a été tourné en Côte d'Ivoire. Il met en scène des créations de la designer Loza Maleambo avec les célèbres tissus de la marque Vlisco. Rumba.
Long life to the queen, baby. Mon amour femme africaine, mama ya ba na yo de boli mwa papa. Atana liputa vlisko na souki ya maboko. Mon amour kitoko, prestance, charisme, la classe, élégance. Mieux que toi n'existe pas baby.
Non.
Shout out to all African queens. Salami malé, car tu le mérites mama.
Mayanga. Eh bien, après Fally Ipupa, on enchaîne sans transition avec le chanteur camerounais Phil Bill.
Oui, Phil Bill qui est originaire de Bouéa, fils d'un père camerounais et d'une mère nigériane. Il puise son inspiration dans cette double culture afrobeat et bikossa. J'espère que vous avez faim, Zéphirin, parce que le nouveau titre de Phil Bill, c'est Condiment. Et ça se consomme sans modération. On écoute.
Cousa, Cousa, Chabot.
Oh, mon amour, tu
m'a fait tomber malade. Le docteur dit que c'est toi mon remède. C'est Dieu qui t'a créé pour moi, oh. T'es le condiment parfait pour rendre cette nourriture délicieuse. Oh mon doudou, on va rendre tout le monde jaloux. Quand je me bourre de mon monde s'écroule, aïe 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 aïe. Tout ce qu'il me faut c'est juste ton amour. Oh rien que ton amour, baby. Baby, sois mon vie, non qu'est-ce pas.
Voilà, j'ai pas encore faim, mais ce condiment de Phil Bill m'a ouvert l'appétit. On quitte le Cameroun de Phil Bill pour le Sénégal de Wally Seck.
Wally Seck de nouveau célibataire, enfin du moins c'est le titre de sa dernière chanson, car on n'est pas là pour évoquer sa vie privée non plus. Le morceau est extrait de son dernier album Entre Nous, sorti le 29 mars, et c'est vraiment tout frais. Wally Seck reste fidèle au style mbalar populaire qui a forgé son succès.
Man li mané ke famu dak waxtu yañi naw te mañi jëm ak man bëgg na yobu ñenta trans dégg no kale jall cour des grands man bëgg na yobu warunga takku sañ bi tiktok bi yangoti sami batel bi mo doon na bëgg mu jeex am jabaan ta tanak le sami batel bi mo doon na bëgg mu jeex su ko te.
Célibataire, un titre de Wally Seck, et je ne me sens pas du tout concerné.
Moi non plus.
Place à la séquence rétro du jeudi, et vous avez choisi, mon cher Hervé, le regretté Olivier Ngoma.
Oui, l'un des trônables chanteurs gabonais, Olivier Ngoma, décédé le 7 juin 2010 à Libreville. Je vous ramène en 1990, il y a 35 ans, année où Olivier Ngoma sortait son tout premier disque Bané, pierre angulaire de sa carrière, dont les titres évoquent une époque faste pour la musique gabonaise. Dépourvue du label World Music. On écoute le morceau Ikole pour se souvenir.
Eh bien, toujours aussi efficace, hein. Même 35 ans plus tard, Olivier Ngoma. Et c'est au Rwanda que nous allons conclure l'Afro-Club du jour avec le chanteur Element.
Oui, chanteur et producteur Element vient de sortir le titre Tombé, un morceau afro qui se mêle à une mélodie zouk entraînante, et Element continue d'enrichir son répertoire et d'explorer de nouvelles sonorités. Écoutez ça.
Elle est venue du ciel, elle est ma jolie nana. Elle. Jusqu'à la muerte, bébé, ni wenza oran sangue. Ouah, ma joro yandaje, usiji e django, yeah. Na wena musingusa, oh yeah, oh yeah. Oh my darling, vijungore rakyo sinabibona. Oma shade, sinza mera kuzijeruga.
Eh bien, c'est avec Element que se referment les portes de l'Afro Club de ce jeudi 3 avril 2025. Cette émission est à retrouver sur l'application RFI Pure Radio.
Et également disponible sur notre site internet rfi.fr. L'Afro Club revient dès lundi en vidéo sur RFI Musique.
Eh bien, merci beaucoup Hervé Mandina alias DJ Face Maker. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, c'est à vous Guillaume.
Merci beaucoup Zéphira, on vous retrouve à 19h30 temps universel, 21h30 heure de Paris pour la deuxième partie d'Afrique Soir. Dans moins de 2 minutes, c'est le journal de 19h TU présenté par Clotilde Dumais. Puis 10 minutes plus tard, c'est le décryptage consacré ce soir à la Birmanie, quasi une semaine après le terrible séisme. Plus de 3000 morts, comment la population peut se relever? Quelle responsabilité des militaires au pouvoir? Ça fera partie des questions qui seront posées aux invités. Et puis le grand reportage consacré ce soir aux tensions grandissantes entre la Chine et Taïwan. C'est à suivre donc dans RFI Soir. Et puis le programme continuera évidemment tout au long de votre soirée dans les tranches d'information.
Allez.
La deuxième partie d'Afrique Soir, ça sera à 19h30. Zéphirin, au programme ce soir.
Au programme ce soir, allez-y.
Évidemment, vous allez revenir sur toute l'actualité du continent, notamment les impacts des droits de douane qui ont été décidés par Donald Trump. Ces droits de douane qui n'impactent pas que les pays occidentaux, mais aussi l'Afrique. Vous y reviendrez largement tout à l'heure dans Afrique Soir.
Demain, sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
L'archouma en arabe, c'est la honte. Honte de se découvrir homosexuel quand on est le grand frère censé donner l'exemple dans une famille musulmane. Cette histoire, c'est celle de Brahim. Elle est mise en scène par Yann Dacosta, interprétée par Ahmed Kadri et Majid Shirmiloud. Ils seront nos invités.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.